En ce lundi, Raphaël, premier rallye électoral pour Joe Biden, ex-vice-président américain, qui a annoncé jeudi qu'il se lançait dans la course à l'investiture démocrate.
Le rallye commence dans les prochaines minutes et ça a lieu dans la région de Pittsburgh. Pourquoi Pittsburgh? Il y a quelque chose d'extrêmement stratégique. De un, évidemment, c'est en Pennsylvanie, mais plus que simplement être en Pennsylvanie, c'est dans une région extrêmement importante de Pennsylvanie, le sud-ouest. Pourquoi importante? Parce que c'était une région qui a 30 ans, lorsque Joe Biden avait lancé en fait sa première campagne présidentielle à la fin des années 80, on parlait vraiment d'un bastion fort démocrate. Les démocrates balayaient tous les comtés dans la région de Pittsburgh. En 88 notamment, même alors qu'il perdait l'élection présidentielle, il balayait cette région-là. 30 ans plus tard, Donald Trump a balayé toutes les banlieues de Pittsburgh, tous les comtés, dans certains cas par des marges de 30, de 40 points. Et on parle vraiment d'une région où il y a une très forte présence de col bleu, de travailleurs. Et c'est des électeurs que Joe Biden se dit être capable d'aller rechercher et aller remettre dans le camp démocrate. Donc, lancement de campagne. Ce que je t'ajoute aussi sur ce point-là, Paul, c'est que Donald Trump se comporte face à Joe Biden comme il se comporte face à aucun autre candidat démocrate depuis le début de la course, c'est-à-dire qu'il ne le lâche pas d'une semelle. Il sort à répétition sur Twitter pour le cibler lui personnellement, l'a encore fait aujourd'hui. Il semble vraiment craindre Biden comme aucun autre candidat du côté démocrate présentement.
Le nouvel accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, qui visait à remplacer l'ALENA, serait en difficulté devant le Congrès américain.
Oui, pour deux raisons foncièrement différentes. La première, c'est que les démocrates à la Chambre disent que tant et aussi longtemps que les normes du travail du côté mexicain de la frontière ne seront pas renforcées, il n'y en aura tout simplement pas de vote à la Chambre. Donc, s'il n'y a pas de vote, évidemment, ça ne peut pas passer, ça ne peut pas être ratifié. Et de l'autre côté du Congrès, au Sénat, qui est de son côté contrôlé par les Républicains, il y a un très profond malaise par rapport aux tarifs douaniers que le président Trump continue d'imposer. Et tu as eu aujourd'hui même dans le Wall Street Journal, qui est un petit peu, si on veut, la Bible quotidienne des conservateurs américains, une lettre signé par un républicain, un sénateur républicain très influent, qui a dit très clairement, tant et aussi longtemps que le président n'enlève pas ses tarifs, ça ne passera pas le Sénat. Donc, cet accord-là, qui semblait être pratiquement comme une lettre à la poste, là, est très loin d'être ratifié présentement. De plus en plus à Washington, on évoque la possibilité qu'on atteigne l'élection présidentielle de 2020 sans que ça ait été ratifié.
Ah oui, jusqu'à ce point-là.
C'est très sérieux présentement.
Donald Trump a franchi une étape importante de sa carrière de président des États-Unis. Plus de 10 000 déclarations fausses ou trompeuses.
Selon le Washington Post, qui les compte sur une base quotidienne. Et là, ce qui est hallucinant en soi, Paul, au-delà du fait qu'on parle d'une moyenne d'un peu plus de 20 déclarations fausses ou trompeuses par jour, c'est que le rythme va en s'accélérant. On était à 5 000 entre janvier 2017, donc le tout début de sa présidence, et septembre 2018. Et depuis septembre de l'an dernier, donc à peine 6 mois, on en a eu un autre 5 000.
Mais ça va peut-être s'accélérer à l'approche de l'élection présidentielle.
C'est très possible, Paul.
Très certainement. Merci beaucoup, Raphaël Jacob.
À demain.
Au retour, le récit d'une sinistrée de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.